Pendant une heure, je vous invite à plonger dans l'univers biographique et documentaire à travers le portrait d'un homme d'exception. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans Toute une vie. Pas un homme d'État ne se rend en Nouvelle-Calédonie sans emprunter les sentiers escarpés qui mènent jusqu'à sa tombe. Parcours tortueux d'un enfant de la tribu devenu prêtre puis homme politique d'envergure internationale, aujourd'hui, Adeline Bévig et Lionel Quentin vous proposent Jean-Marie Djibaou, 1936-1989, c'est toute une vie de réconciliation au son des tambours.
À l'Assemblée nationale, le débat sur la prolongation de l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie a commencé par un psychodrame, un vif incident, lorsque l'opposition s'est aperçue que le chef kanak Jean-Marie Djibaou était là, en chair et en os, dans la tribune réservée au public, en ligne du Palais Bourbon, Jean-Michel Blier.
Oui, Patrice, un début de séance particulièrement animé, c'est tout d'abord Claude Labbé qui, par la voix d'un rappel au règlement, dénonçait la présence de M. Djibaou dans les tribunes du public. Écoutez.
Nous constatons en effet la présence intolérable dans la tribune de l'Assemblée nationale française d'un homme qui s'est volontairement situé en dehors de la République, de ses lois, et qui porte la responsabilité d'un certain nombre d'exactions commises sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Nous refusons de siéger dans de telles conditions.
C'était alors au tour de Jean-Claude Gaudin, président du groupe UDF, de demander la parole.
Le président d'un gouvernement provisoire, en rébellion ouverte contre la France, ne saurait avoir sa place dans cette enceinte.
Lionel Jospin, le premier secrétaire du Parti Socialiste, stigmatisait alors l'attitude de l'opposition.
Une démarche a été engagée par le gouvernement. Ce qui me paraît par contre impossible, c'est que face au caractère dramatique de cette situation en Nouvelle-Calédonie, que l'on fasse preuve dans cette affaire d'esprit de haine, d'esprit d'exclusion et d'irresponsabilité.
Quatrième rappel au règlement alors avec le communiste Guy Ducolonnet qui faisait part de son indignation.
Je dois dire au nom des députés communistes notre indignation devant les propos qui viennent d'être tenus par M. Labbé et par M. Gaudin. Notre indignation devant des propos qui, à la période où nous vivons, nous croyons qu'ils étaient dépassés et que le colonialisme pouvait ne plus avoir droit de cité dans notre pays.
L'opposition ayant demandé une suspension de séance, les débats étaient alors interrompus pendant 5 minutes. Jean-Marie Djibaou n'avait pas attendu pour s'éclipser, pressé par les journalistes alors qu'il montait dans sa voiture. Le président du FLNKS a simplement déclaré « Je ne croyais pas que nous avions tant d'importance ».
Jean-Marie Djibaou, 1936-1989.
Ben oui, mais t'étais stupide.
J'ai tapé le ventre de maman.
Eh ouais. Allez, assieds-toi là. T'as bon.
L'enfant, le grand.
Allez, tu lis ton livre, tranquille. Tu fais pas de bruit, d'accord?
Emmanuel Djibaou.
C'était pas un grand type, hein. Il était plutôt ramassé, trapu. Et assez costaud quoi pour travailler au champ. Et quand on était petit, on essayait de l'attraper pour faire le tour de son ventre, on n'arrivait pas. Tu vois. Et ben voilà, nous on le voyait à la télé. On ne savait pas que c'était quelqu'un d'important. C'était juste notre père, quoi. Et je pense qu'il y a un des éléments importants, enfin ce qui nous a transmis, c'était surtout le rapport à la terre, la coutume aussi. Mais ce qui était un élément important, c'est surtout la terre. On parle que si on a des ignames, on parle que si on est debout sur sa terre. Et même en étant petit, enseigner l'agriculture des ignames, le cycle des saisons, la pêche, et puis les petits jeux de la tribu, quoi.
Je voudrais d'abord...
Jean-Marie Chibaou.
Je ne sais pas dire, de souhaiter de très bonnes fêtes de Noël aux gens qui nous écoutent en France. Je voudrais dire également que mon propos de ce soir sur le monde mélanésien auquel j'appartiens, ça n'est pas une revendication ennuyeuse, mais c'est pour vous faire participer un peu à notre culture, à ce patrimoine que nous avons et que nous pensons être, que ce patrimoine fait partie du patrimoine des hommes, des habitants de la terre. Dans la conception traditionnelle, enfin conception mélanésienne de l'homme, je suis le résultat du principe de vie donné par le sang qui circule en moi et qui a été donné par ma mère. Mais ce principe de vie est en quelque sorte sans identité tant qu'il n'a pas été nommé. Et je suis nommé par mon père qui me donne un nom appartenant à son clan et qui m'inscrit dans sa hiérarchie et dans la hiérarchie de la société. Et de ce point de vue, je suis, et là c'est très important, je suis redevable toute ma vie de ce que je suis par mon sang et de ce que je suis par mon nom. À aucun moment de ma vie, je ne puis dire absolument « moi, je ».
Le sang de Jean-Marie lui vient de sa mère, Dia. Mais le nom de Chibaou n'est pas celui de son père, le chef Ti Wenceslas Vaou. Il lui a été donné par les vieux de la tribu pour sceller la réconciliation entre les clans Goa et Boirat, devenus ennemis lors de la révolte des Kanaks contre les colons français. Le 30 janvier 1936, Jean-Marie Chibaou naît au monde comme un symbole d'alliance retrouvée. C'est au cœur de la tribu de son père, Atienne Danit, qu'il va grandir et apprendre les règles de la coutume qui organise l'espace et le temps de l'homme kanak. Une vie rythmée par la course du soleil et la culture des ignames, à mille lieues de l'activité trépidante de Nouméa, le chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie, et à 22 000 km de Paris, la capitale de l'île, à l'autre bout de la terre.
Atienne Danit, c'est un endroit où... Comment je vais dire ça? C'est comme une bulle, quoi. Où le temps, il n'a pas de prise sur les gens. Et on peut écouter le bruit de la rivière, on est réveillé par le chant des oiseaux. Et puis c'est là où on se sent, comment dire, être soi-même. Simplement être soi-même. Et je pense que c'est ça aussi qu'on cherche à chaque fois quand on rentre à la tribu, c'est de pouvoir simplement être soi-même, être le fils d'eux, et puis le papa d'eux, l'oncle d'eux, et ne plus être un numéro. Oui, on est un petit peu... perdu ici quand on est dans la ville de Nouméa parce qu'on n'a pas nos repères.
Au moment de l'arrivée des colons, les tribus occupaient toute la vallée jusqu'à l'embouchure. Les Européens se sont installés avec des titres donnés par l'administration. À partir du moment où les gens n'ont plus d'endroit pour cultiver, c'est comme ça que a été décidé la révolte de 1917 pour reprendre les terres.
Je pense que L'histoire de Tiedanit, elle est entachée aussi de beaucoup de révoltes et puis de guerres, quoi. Là-bas, on dit Tiedanit, c'est le nom français, mais dans la langue Wamale, c'est Ngasenjianit. Ça veut dire l'endroit où le sentier glisse. Mais il glisse parce que les gens, ils sont toujours à courir parce que il y a la guerre et puis il faut se battre. Et donc là, par exemple, pour les cérémonies qui vont célébrer les commémorations autour de la Grande Guerre en France, de 14-18, nous, à Tiedanit, en 1917, il y a eu après que le front il a été stabilisé en France, la France a fait appel à toutes ses colonies pour pourvoir en tirailleurs le front, quoi. Et donc ils sont passés chez nous, comme ils sont passés en Indochine, en Algérie. Et puis ils ont mené une campagne de recrutement pour dire aux gens de se mobiliser pour défendre la mère patrie. Et là où chez nous, on l'a vu, ils ont dit non, parce que ils ont dit que c'est pas Guillaume II qui vole la terre des Kanaks, c'est vous les Français. Donc c'est contre vous qu'il faut se battre.
Âgé seulement de 9 ans, Chibaou doit partir à l'autre bout du pays pour suivre son éducation au séminaire. Il devient prêtre en 1965. À Nouméa, il découvre les injustices et le déracinement dont sont victimes les Kanaks au sein d'une société encore marquée par le système colonial. Révolté, il quitte les ordres et entre dans l'action sociale où il rencontre sa femme, Marie-Claude Ouetta. Avec le soutien de plusieurs associations, il entreprend alors un projet fou, Mélanésia 2000, un grand festival de toutes les cultures kanaks au cœur même de Nouméa-la-Blanche. Nous sommes en 1975, la vie publique de Jean-Marie Chibaou peut commencer.
Jean-Marie Chibaou était un homme...
Gérald Cortot.
Un homme entier, un homme qui avait une vision d'ensemble de son pays, mais qui mettait aussi sa culture comme élément fondamental. Alors, attention, c'était sa culture, la culture kanak bien sûr, mais comment partager cette culture et comment prendre en compte aussi la culture des autres. Et il avait pour habitude de dire, écoutez, il faut d'abord que l'on soit reconnu chez nous avant que l'on puisse reconnaître les autres. Et donc il a eu cette démarche et je pense que c'était donc un point de départ pour lui pour pouvoir faire partager cette culture et pouvoir quelque part l'aborder et aborder le futur avec l'ensemble des populations de ce pays.
Après avoir débarqué dans la baie de dite de Mahamat, nos hommes se sont rendus maîtres du terrain, non sans avoir eu à affronter un fort parti d'indigènes.
Bah, ils ont pas l'air tellement méchants pour des gars qui passent leur temps à se bouffer entre eux.
Patrice Gaudin.
Pour Jean-Marie Chibaou, il s'agissait de mettre fin à un certain nombre d'inégalités économiques, etc. Donc il y avait un mot d'ordre de développement économique, mais ce développement économique lui-même s'enracinait dans la revendication politique pour mettre fin à l'injustice coloniale et à la domination française. Et puis l'idée ensuite, c'est que la revendication politique elle-même s'enracinait dans la revendication culturelle qui la justifiait, qui donnait sens et légitimité à toutes les autres revendications. Donc pour Jean-Marie Chibaou, la culture, c'est la base, c'est le sens. C'est ce qui donne sens et légitimité aux choses.
Si nous voulons faire Mélanésia 2000, c'est pour que les gosses sachent qu'il y a une culture dans ce pays. C'est pour que nos amis européens qui sont là sache aussi que nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes ayant une culture et cette culture, il faut la montrer. Si on ne la montre pas, on pense qu'on n'existe pas.
Et si j'ai bien compris le discours de Jean-Marie Tjibaou, justement, il concernait pas uniquement les Kanaks, je crois.
Non, non. Mais Kanaks, c'est la signification. C'est un terme que peut-être il faut expliquer. C'est le nom que l'on donnait à tous les Océaniens en général. On disait indigènes, quoi. Ou mélanésiens. Comme on pouvait dire les Arabes ou les Chinois pour les Viet, quoi. Mais à partir des années 70, l'émergence, les retours des premiers étudiants qui sont venus de France et puis qui ont connu 68 là-bas, ben ils se sont dit, mais attendez, peut-être qu'avec les frères d'Afrique là, qui sont en train d'accéder à l'indépendance, il y a peut-être quelque chose à faire chez nous, parce qu'on voit que le système, il est pas pensé par nous, il n'est pas pensé pour nous. Et on est tout le temps exclu du développement, on est tout le temps à la périphérie on décide à chaque fois à notre place. Et donc Kanak, ça a été un petit peu de se dire, ben, de cette insulte là à laquelle vous allez nommer notre condition, quoi, d'homme, ben on va l'affirmer, puis de l'acclamer comme un étendard de la révolte. Nous, on est des Kanak, et puis fiers de l'être, c'est ça le truc. Et donc, le combat du vieux, tout ça, c'était de se dire, ben, Kanak, c'est les habitants de Nouvelle-Calédonie. C'est les hommes. Kanak.
Jean-Marie Tjibaou est encore prêtre quand il part étudier la sociologie et l'ethnologie à Lyon. Nous sommes en 1968. La vieille Europe est en crise. Ses colonies découvrent l'indépendance. Cette nouvelle donne nourrit l'analyse de Jean-Marie sur la situation calédonienne. Il veut redécouvrir le patrimoine traditionnel pour mieux donner une place aux Kanaks au sein d'une société moderne et mondialisée. Sa phrase la plus célèbre résume ainsi son propos : notre identité, elle est devant nous.
Je pense que Jean-Marie Tjibaou, comme d'autres intellectuels africains ou asiatiques, voyait dans l'ethnologie une double opportunité. La première qui était d'aller faire tout un travail autour du patrimoine culturel, des traditions, pour permettre que celle-ci soit conservée, inventoriée. Il y avait donc tout un aspect pratique au service d'une cause de dignité culturelle et de revendication qui se faisait déjà chez Jean-Marie très politique. Et puis, il y avait cette idée que l'ethnologie était le langage qui permettait de discuter avec les Européens. C'est-à-dire, c'est le langage qui est accessible aux Européens pour parler de cultures qu'ils ne connaissent pas. Et je crois que c'était ce langage de l'ethnologie qui servait à Jean-Marie Tjibaou à essayer de convaincre les Européens de modifier leur regard et bien entendu aussi plus globalement leur attitude vis-à-vis de la société kanak à laquelle il appartenait.
Le droit à l'indépendance du peuple kanak est un droit qui nous appartient. Il n'appartient ni à Mitterrand, ni à M. Pisani, ni au gouvernement français. C'est le droit du peuple kanak d'être indépendant. Et l'acte d'autodétermination l'autorise à exercer ce droit. Et nous sommes seuls à disposer de ce droit ici.
Toute l'action politique de Jean-Marie Tjibaou est une action politique de quelqu'un qui veut bien entendu la fin de la colonisation, la reconnaissance des droits de son peuple à la dignité, à l'autodétermination, à la construction d'un pays moderne, etc. Mais en même temps, il sait qu'il ne peut pas en Nouvelle-Calédonie avoir ça sans établir des rapports différents avec les communautés qui sont arrivées ici avec la colonisation. Et donc le travail, j'allais dire, politique indépendantiste qu'il a conduit a toujours été doublé par tout un travail de rencontres, de concertations, d'échanges, de dialogues avec la population calédonienne, avec les autres communautés wallisiennes, futuniennes, tahitiennes. C'était asiatique, c'était vraiment son, me semble-t-il, une des choses qui le caractérise. Et la revendication, par exemple, du premier occupant, dont a souvent parlé Jean-Marie Tjibao, est à comprendre dans ce contexte-là. C'est-à-dire qu'il s'agit de dire « reconnaissez-nous comme étant les autochtones » et à ce moment-là, on peut construire la relation d'échange et vous, en tant qu'étranger, prendre votre place tout à fait à l'intérieur de la société, à l'intérieur de la maison.
Paulette Godin.
Moi, j'avais à l'époque 21 ans, et je ne connaissais pas la personnalité de Jean-Marie Tjibao. Et c'est en travaillant avec lui que j'ai appris ce que c'est. Je suis toujours émue de parler de lui.
Pourquoi ça vous émeut autant de parler de lui?
Parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté, moi-même, et puis pour le pays. Et c'est vrai que comme quand je disais que j'avais 21 ans, à cet âge-là, on pensait plus à courir, c'est la jeunesse. Et là, nous, on était complètement happés. Parce qu'il se battait pour... Parce qu'il y avait le problème dans ce pays... que les Kanaks ne sont pas pris en considération chez eux. Et lui, il a décidé d'aller au-devant et de dire que ce peuple minoritaire, qu'on a rendu minoritaire chez lui, doit se lever et de prendre en main son pays. Et avec les autres, puisque c'est difficile de faire sans les autres. Mais nous, moi à 20 ans, je ne comprenais pas ça. Je ne comprends pas pourquoi on va aller avec les autres, puisque à cette époque-là, c'est l'indépendance. Dans tous les discours du front indépendantiste à l'époque, c'est l'indépendance kanak pure. Lui, il voulait une indépendance kanak, mais avec les autres. De prendre en considération les gens qui sont arrivés ici, c'est qu'on appelle les Caldoches, et qu'ils disaient que ce n'est pas de leur faute qu'ils sont ici dans ce pays, c'est par l'histoire de ce pays, c'est les bagnards, qu'on a des gens qui ont débarqué ici, qui ne voulaient pas être ici, etc. Et on doit faire avec eux, parce que leur patrie, c'est maintenant ici.
À 41 ans, Tjibao entre en politique comme maire de Yengen. Il rejoint rapidement la direction du Front indépendantiste, qui réunit toutes les tendances favorables à l'indépendance, depuis les modérés dont il fait partie, jusqu'aux plus radicaux. En 1982, son parti remporte les élections territoriales. Pour la première fois, les indépendantistes sont au pouvoir en Nouvelle-Calédonie. Pendant 2 ans, Tjibao préside le pays, au grand dam de son opposant, le loyaliste Jacques Lafleur.
J'arrive au moment où Jean-Marie Tjibao vient, ça fait pas tout à fait un an, de prendre les rênes du conseil de gouvernement, du fait d'une alliance avec une partie de l'électorat centre droit local, représenté par la FNSC. Et donc il y a déjà une tension absolument énorme, puisque ça fait c'est la première fois que les Kanaks et les indépendantistes sont au pouvoir. Et on sent bien que la montée du mouvement indépendantiste est quelque part inéluctable. Et donc ça crée des tensions absolument terribles, parce qu'il y a des résistances au changement social. Et puis dans les entreprises, etc. On était le sentiment d'une société profondément bloquée, profondément inégalitaire et injuste. Et Jean-Marie Tjibao qui était là avec cette idée à la fois de faire progresser donc la cause qui était celle du FI à l'époque, puisque le FLNKS n'existait pas encore, et la volonté d'établir un rapport différent avec les Européens et une résistance, c'est-à-dire que à l'époque le parti de Jacques Lafleur fait tout pour éviter que le dialogue puisse s'installer.
Jean-Marie Tjibao avait un projet de société. Et tout ce qui était réalisé à l'époque, mais il l'a fait sans hésitation. La fiscalité, il n'y avait pas de fiscalité, l'IRPP à l'époque, l'impôt sur les revenus des personnes physiques. C'est lui qui l'a mis en place, l'impôt sur les sociétés. Et il devrait aussi, dans son programme, attaquer les grosses fortunes. C'est tout ça que Jean-Marie Tjibao voulait. Il l'a fait. Il a commencé par ça.
Jacques Lafleur.
Tous les mouvements qui existent pour la dépendance en Nouvelle-Calédonie sont racistes. Ils s'appellent Kanak et socialistes, Libération Kanak. Et dans tous les propos qui sont tenus par le Front de Libération Kanak, il s'agit d'éliminer essentiellement tous ceux qui ne sont pas Kanak, et à ce moment-là, on veut bien les accepter, à la condition qu'ils renoncent à leur idée politique, à leur volonté de rester dans la République française. Voilà pourquoi je dis que c'est raciste.
Jean-Marie Tjibao.
Je pense que c'est pas utile de faire cette discussion, elle est sans fondement. Quand on dit l'indépendance française, est-ce que c'est raciste? Il faut bien que l'indépendance d'un pays s'appelle par le nom des gens qui habitent ce pays.
Jean-Marie avait l'habitude de... Il y a lui et d'autres personnes, quand on lui demandait « Mais qui est Gérald ?» Ah, il disait ça, c'est un pur métis qui le disait. Ah, j'ai un grand-père qui était métropolitain, donc qui était ici de la colonisation pénale. J'ai eu donc une grand-mère paternelle qui était donc réunionnaise. J'ai eu un grand-père du côté maternel qui était un arrière-grand-père métropolitain, une arrière-grand-mère kanak. Donc ça vous donne déjà les mélanges. Et ensuite, ma grand-mère maternelle a épousé un Japonais. Donc ma mère avait 50% de Japonais. Donc ça vous donne un petit peu ce que je suis aujourd'hui. Donc ce mélange de cultures était quelque chose qu'affectionnait tout particulièrement Jean-Marie. Moi, je sais qu'il disait à l'extérieur, j'adore être chez Gérald parce que je sais jamais chez qui je vais dîner le soir. Je peux manger un bougnat, je peux manger... Parce que ma femme est vietnamienne en plus, hein. Vous voyez, j'ai compliqué les choses. Hein. Je peux manger du plat vietnamien, je peux manger des superbes plats français. Et il me dit, je sais qu'il avait l'habitude de dire, c'est extraordinaire parce que je fais, en peu de temps, je fais un tour du monde gastronomique. Alors, c'est sans prétention, hein, mais voilà, c'était Jean-Marie.
Jean-Marie, comme ça, savait s'entourer. C'était même une de ses qualités, je pense. C'était d'aller de juger assez rapidement les hommes et de savoir chez qui il pouvait aller chercher des informations, chez qui il pouvait aller chercher des avis, chez qui éventuellement il pouvait obtenir un concours précis, comment lever un certain nombre de manettes pour déclencher des actions dans des domaines où il avait envie de voir les choses bouger. C'était un grand stratège de ce côté-là.
Déçu par les revirements de l'État sur le dossier calédonien, le parti de Tjibao, désormais appelé FLNKS, décide de boycotter les élections territoriales. La photo d'Éloi Machoro, bras droit de Tjibao, détruisant une urne à coups de machette, fait le tour des médias. La rupture totale est entérinée le 1er décembre 1984. le FLNKS, forme le gouvernement provisoire de Kanaky, en dissidence avec l'État français, et nomme Tshibau président. C'est le début des événements.
Pour la République de Kanaky, pip pip,
ouais,
pip pip,
ouais,
pip pip,
ouais,
pip pip,
ouais.
Aujourd'hui, nous relevons le défi et nous levons ce drapeau. Le vert, symbole de Kanaky, le vert du pays Kanaky. Le rouge, symbole de la lutte du peuple Kanak, symbole de notre unité, unité du FLNKS, et projet d'unité avec tous ceux qui accepteront la République de Kanaky avec sa constitution. Le bleu de la souveraineté. Le soleil est aujourd'hui au rendez-vous. Rendez-vous de l'histoire du peuple Kanak. Merci au soleil. Merci à nos ancêtres. En tant que président du gouvernement provisoire, je salue l'emblème national de Kanaky et je déclare constituer le gouvernement provisoire de la République de Kanaky. Que Kanaky vive!
Moi, en étant petit, ici, là, on a marché partout, là, lorsqu'il y a eu les événements.
Emmanuel Tshibau.
On était sur les capots des voitures à brandir le drapeau du FLNKS. Et parce qu'à chaque fois, ça se terminait toujours soit ici, devant la résidence du Ossaria. Et il y avait tous les gardes mobiles qui étaient devant. Et c'est rare que ça se terminait souvent comment on appelle ça, avec les gaz lacrymogènes, quoi. Donc nous, on était devant. Et puis après, au moment où, juste avant que ça chauffe, ça y est, les mamans, elles nous ramenaient à l'arrière. Et puis tous les gens qui étaient dans les manifs, mais ils montaient sur les arbres pour casser les broches de flamboyant pour lancer sur les VBRG et puis les gardes mobiles. Mais oui, ici, il y a eu pas mal de bastons ici, dans les années 80. Quoi. Maintenant, c'est un peu plus, comment dire, policé.
Quelques jours seulement après la levée du drapeau de Kanaky, le drame survient dans la vie de Jean-Marie Tshibau. Des colons tentent une embuscade à 17 hommes de sa tribu. Arrêtant leur véhicule grâce à des troncs d'arbres placés en travers de la route, ils tirent sur les passagers. 10 d'entre eux sont assassinés, parmi lesquels 2 de ses frères.
On était désarmés. Puis ils étaient préparés là. D'instinct, je me suis couché par terre. J'ai entendu siffler une balle sur ma tête. J'ai plongé, j'ai traversé. J'ai plongé au milieu de la rivière, là, j'ai sorti de l'autre côté. Puis je suis rentré sous les buffalo. Il y a les buffalo là en face. Mais le gars là, il m'a vu parce qu'il a éclairé les lignes. Il m'a tiré dans la face. Il m'a tiré dessus. L'autre il a crié, tire, tire. Les mecs qui étaient blessés là-bas. Ils ont passé puis ils ont tué un par un. Je les ai entendus parler. Je l'ai tué, ces enculés de canard.
Je crois qu'on va pas revenir en détail sur tous ces moments. Moi, je l'ai vu extrêmement affecté la disparition donc, des gens de Tiananit. Hein. Et là où je dis que c'était, il avait la capacité, non seulement la capacité, mais la carrure d'un homme d'État, c'est le fait de l'engagement qu'il avait pris de lever les barrages et autres, et de dire, malgré tout ce qui s'était passé, malgré que tous les siens étaient assassinés sur la route, de dire, il y a une parole, on la tient, quoi. Hein. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, ça manque.
Si les partis politiques ont des objectifs différents sur l'avenir du territoire, cela ne justifie pas le meurtre de qui que ce soit. Je me permets d'appeler mes compatriotes au calme et à la clairvoyance. À mes amis du front, je rappelle que la grandeur de l'option pour l'indépendance ne doit pas être ternie par le sang.
La violence, c'était pas chez Jean-Marie quelque chose qu'il affectionnait. Puis il aimait pas la violence, mais je dirais que dans l'ensemble, ensuite, vous aviez des gens au niveau du caractère peut-être plus vifs qui sur le terrain avançaient et Jean-Marie qui faisait plus le tampon avec les autres.
Interactualité, 27 décembre 1984.
Est-ce que la population blanche peut revenir à Thiot, qui paraît une ville assiégée aujourd'hui?
C'est une apparence de ville assiégée, mais le problème pour les blancs comme pour les autres, c'est qu'on a peur quand on a quelque chose à se reprocher. S'ils n'ont rien à se reprocher, bon ben, puis de toute façon, la route est libre.
Malgré ces assurances données par Éloi Machereau, le dernier caldoche restant à Thiot a décidé de faire ses valises, il vient de l'avouer à Jacques Expert.
Je déménage samedi, si les camions arrivent samedi, comme c'est prévu. C'est terminé, je laisserai peut-être quelque chose quand même dans la maison, puisque en principe, on m'a toujours dit que ça devrait reprendre. Mais je dis bien en principe, et j'y crois pas du tout. Et ce que je laisserai, ça sera pas grand-chose de valeur. En définitive, ça sera peut-être quoi, peut-être un lit, une chaise, une table, mais jamais, je laisserai même pas le fourneau.
Vous avez l'impression que vous allez revenir vivre dans cette maison?
Je regrette beaucoup, mais j'ai l'impression que je ne pourrai jamais y revenir. Pour la bonne raison, c'est que d'abord, les FNKS nous ont assez prévenus. Ils ont dit que tous ceux qui faisaient la tête, ils seraient obligés de s'en aller. Alors, comme je fais partie peut-être d'après de ceux qui font la tête, ma foi, ça ne m'étonnerait pas que je n'ai plus rien à faire ici.
Il y a eu des moments où on le voyait rarement, quoi, surtout pendant la période des événements. On le voyait surtout la nuit, quoi, parce qu'il arrivait tard et puis il y avait beaucoup de règles qu'il fallait respecter parce qu'on sentait qu'on était en danger. On voyait des hommes en armes, en faction autour de la maison, des consignes, des couvre-feux. Et puis le fait qu'on circule la nuit, avec des cibis, on est prévenu, chaque fois il y a des mots d'ordre. Et puis dès qu'on a autour de nous, il y a toujours des gens qui font la garde, qui surveillent la maison jour et nuit. Jusqu'en 84-85, après on est parti sur Yangen. Puis là, on a été un petit peu plus tranquille. Hein. Bon, il y avait toujours la garde, mais on se sentait plus en sécurité.
Patrice Gaudin.
À l'époque, il était sans cesse en train de bouger. Jean-Marie Tchibao, c'était quelqu'un qui allait de Nouméa à Yangen, de Yangen à Nouméa, de Nouméa à Paris, dans les pays asiatiques, dans les pays du Pacifique. C'est quelqu'un qui a consacré énormément de temps à essayer d'établir des liens aussi bien dans le pays avec différents interlocuteurs en France et dans le monde. C'était vraiment quelqu'un qui a beaucoup bougé, beaucoup donné de sa personne. Alors, je crois qu'une des raisons pour laquelle d'ailleurs il avait comme ça cette espèce de politique qui consistait à avoir des cercles bien précis, c'est que ça lui permettait de limiter dans le temps les investissements qu'il avait, et que quand il était à Yangen, ben là il était chez lui, dans sa famille, avec sa femme, ses enfants, ses frères, ses proches en général. Et dans ces moments-là, effectivement, il n'avait pas envie que les interlocuteurs des autres cercles viennent le déranger. Donc je crois que c'est quelqu'un qui savait organiser son espace et son temps de façon tout à fait originale et efficace.
Emmanuel Tchibao.
Moi, je me souviens, quand on était petit, on avait fait un voyage en Nouvelle-Zélande. Bon, ils ont été pour rencontrer des élus, des politiques, puis des notables de la culture maori. À Vanuatu, on a rencontré Frère Lini, qui était premier président, père de l'indépendance de Vanuatu. Moi, j'ai surtout vu ça. Plus après, des investisseurs étrangers, asiatiques, qui arrivaient à la maison pour manger. Parce que je pense que c'était aussi une partie qui était essentielle dans la prise en compte de l'idéologie politique, ça passe nécessairement à un moment ou à un autre par s'asseoir et puis manger. Et donc, ce qui fait que par... on a eu pas mal de monde autour de la table. Et bon, nous, on mangeait à côté, mais on savait bien que c'était des étrangers, mais on n'avait aucune idée de la portée de cet engagement au-delà des mers. Quoi. On voyait parfois des interviews à la télévision, quoi.
9 août 1986.
Un petit revers diplomatique pour la France, à l'initiative des 13 pays du Forum du Pacifique Sud, au premier rang desquels l'Australie et la Nouvelle-Zélande, les Nations Unies ont décidé hier de réinscrire la Nouvelle-Calédonie sur la liste des territoires non autonomes et qui doivent être décolonisés. En principe, cette résolution donne à l'ONU un droit de regard sur la vie du territoire et en particulier sur l'organisation du référendum sur l'autodétermination prévu pour juillet prochain. Tout en regrettant cette décision, les autorités françaises minimisent cette affaire en faisant remarquer que le texte n'a pas obtenu une approbation franche et massive. De toute façon, le gouvernement n'a pas l'intention, là encore, de se laisser intimider. Hier soir, à face au public, Charles Pasqua affirmait que la France ne tiendrait aucun compte de cette résolution et qu'elle n'avait de leçons à recevoir de personne en matière de droits de l'homme. En revanche, les indépendantistes sont très satisfaits. Pour eux, c'est une victoire, comme Jean-Marie Djibaou, le président du FLNKS, l'a expliqué au correspondant de Radio France Internationale à New York, Charles Lescot.
Je pense c'est une victoire pour le peuple kanak. La France, elle a signé la Charte des Nations Unies. Elle s'oblige ou elle ne s'oblige pas, elle-même. Nous, pour ce qui nous concerne, ça nous fait un appui. Pour un appui qui demeure... qui fait que nous avons l'opinion internationale comme témoin de notre démarche, de nos discussions, du consensus que l'on peut obtenir, aussi bien que des dérapages qui risquent de se produire.
Antenne 2, 5 mai 1988.
Trois gendarmes massacrés à l'arme blanche en Nouvelle-Calédonie, 27 autres séquestrés quelque part dans la brousse sur l'île d'Ouvéa, c'est le bilan de l'opération Commando menée très tôt ce matin par les indépendantistes kanak. Difficile de faire le point car il est actuellement 5h du matin à Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Seule certitude, cette affaire ravive les passions à la veille des élections. Dimanche, les néo-calédoniens sont appelés aux urnes à la fois pour l'élection présidentielle et pour les élections régionales.
En mai 1988, la prise d'otage de la grotte d'Ouvéa et l'opération Victor qui s'ensuit font 2 morts chez les militaires et 19 morts côté indépendantiste. Ce drame propulse la question calédonienne au cœur de la campagne présidentielle qui oppose Jacques Chirac et François Mitterrand. Lorsque ce dernier remporte les élections, il nomme Michel Rocard Premier ministre et lui assigne la mission d'arrêter le bain de sang et de rétablir la paix en Nouvelle-Calédonie. Rocard s'exécute et ramène à la table des négociations à Matignon les opposants historiques Jean-Marie Djibaou et Jacques Lafleur.
Le moment le plus difficile de la négociation, c'est peut-être en effet le tout début.
Michel Rocard.
Parce que j'ai ouvert la séance en disant « Bonjour madame, il y avait une dame. Je suis heureux de vous accueillir. Notre ordre du jour est lourd, ce sera la paix ou la guerre. » Nous avons des tables de travail, du papier blanc, nous avons de la nourriture pour quelques jours. Il y a 3 salons disponibles, j'ai fait disposer un matelas, on pourra se loger et dormir. Nous sommes samedi soir, 20h, 20h30, mon premier rendez-vous est mardi à midi. Je suis totalement disponible pour Toulon, sans aucune espèce d'interruption ni contact avec l'extérieur, à la seule exception d'éventuellement... de Monsieur le Président de la République française, bien sûr. Personne ne sortira d'ici, parce que si on apprend en cours de négociation qu'on envisage tel ou tel prix à payer par l'autre pour la négociation, les extrémistes de l'opinion publique, les extrémistes de vos deux camps rendront la chose impossible. On sortira pas d'ici. Ce sera la paix ou la guerre, mais il n'y aura pas de revue. Alors ça, ça a été lourd. Ils n'ont pas aimé. Mais enfin, ils l'ont accepté, Chibao aussi. Et par conséquent, on s'est mis à travailler.
Paulette Godin.
Ça a été difficile quand il a signé ses accords en juin 1988 à Paris. C'est vrai que le front en général, c'était déjà... oui, le FLNKS à l'époque a changé. Et les gens, ils n'étaient pas d'accord. En fait, les gens ne savaient pas ce qu'il a vraiment signé, réellement. On n'avait aucune idée de cette signature. On sait tout simplement qu'il s'est enfermé à Matignon avec Crocard et Lafleur pendant des jours et des jours. Mais on ne sait pas. Les gens, ils disaient, mais ils discutaient de quoi ? Et quand cette nuit-là, la signature a eu lieu, eh ben, ils ont fini vers 2h, 3h du matin, je crois. Et 3h30, notre téléphone a sonné. Et c'est moi qui ai décroché. Et Jean-Marie disait « Allô, c'est moi ?» Alors je dis « Mais... » Et j'entendais, je dis « Mais je connais cette voix. » Et c'était Jean-Marie Chibao qui dit « Ah ben pendant qu'il y en a qui bossent, il y en a qui roupillent. » Et c'était lui. Alors après, Jean-Marie me disait, la première chose qu'il m'a dit, c'était « Ne pose pas de questions. Surtout, ne pose pas de questions. » Voilà, donc c'était le chef, c'était notre chef.
Jean-Marie Chibao.
Je pense que entre les responsables, les engagements que nous prenons nous engagent d'abord nous. Mais il y a la réalité du terrain où les gens ne sont pas d'accord entre eux, où les gens se sont haïs. Et je dirais que c'est tout le travail qui nous reste à faire de partager cette vision nouvelle d'un avenir commun pour notre pays, travailler dans la paix.
À votre avis, en l'an 2000, la Nouvelle-Calédonie est indépendante ?
Pour moi, oui, mais avec tout le monde.
Et vous, Jacques Lafleur ?
Pour moi, non, mais avec tout le monde.
Je me souviens, ça a été très, très difficile. Parce que c'est pareil, les gens ne comprennent pas ce qu'ils viennent de signer, parce qu'il n'y a pas d'explication... La réelle, on dit on les a signés en France, mais on... Et c'est là que Jean-Marie s'est mis avec Yéyé à expliquer ce que c'est que l'accord de Matignon, etc. Et je me souviens que quelqu'un, un fils Pidgeot qui est décédé maintenant, Nicolas, qui est un vieux militant de l'Union calédonienne, il s'est levé parce qu'il y en a qui posaient des questions, qui disaient « Voilà, mais nous, on ne comprend pas. » D'accord. Et Nicolas a dit ce qui, pour moi, était la chose qu'il fallait dire et que c'était essentiel. Il a dit, depuis qu'on suit cet homme, Jean-Marie, est-ce qu'aujourd'hui, la chose que je vous demande, c'est est-ce que vous avez confiance en lui ? Et les gens dans la salle... parce que ça fusait des questions et que j'étais pas d'accord pour telle raison, pour telle raison. Et il y en a un militant qui s'est levé pour dire « Oui, on a confiance. On a confiance à cet homme-là. » Et c'est comme ça qu'après, on est parti partout, sur tout le reste de la Nouvelle-Calédonie, à Kanaky, pour expliquer. Et bon, après... le 4 mai 1989, voilà que Jean-Marie est décédé. C'était terrible, quoi.
Il n'y a que le silence, les pleurs. Le corps de Jean-Marie Chibao est rapatrié à l'aéroport de Nouméa. Le président du FLNKS a été tué sur le coup. Son fidèle compagnon, Yewene Yewene, le suit. Le numéro 2 du FLNKS a été touché le premier. C'est après un long coma qu'il a succombé.
Vous étiez à Paris ?
J'étais à Paris quand Jean-Marie est décédé.
Vous vous rappelez de ce moment-là ?
Ah oui, c'est affreux. C'était quand on faisait les courses, on ne savait pas. On est rentré à la maison, on allumait la télé et c'était plein l'écran. Et puis avec les sous-titres, on ne savait pas si Yéyé était encore vivant ou il est mort. Mais c'était sûr que Jean-Marie était mort. Je me souviens que j'ai laissé tomber la viande de mes courses devant la porte. Et ils ont fini par pourrir devant la porte, la viande et tout, parce que je n'ai jamais eu le courage de le prendre et de... Voilà, c'était...
Les funérailles ont réuni beaucoup de monde, je crois.
Ah oui, il y avait des gens de tous les pays, et même des gens du Pacifique, puisque en partant de Paris, avec l'avion du Premier ministre, on est allé prendre des personnalités de la Polynésie, de Papeete. Et il y avait même les gens de Fer de Lance, les gens du Pacifique, qui se sont déplacés pour... Et toute la Calédonie, si vous voyez comme il était aimé, les vieux, les jeunes, qui pleuraient, cet homme-là. C'était grandiose, c'était historique, c'était triste.
Sa mort m'a rendu malheureux, m'a beaucoup affecté, mais surtout, elle fragilisait l'accord. J'ai eu peur que la paix elle-même soit tué et que l'affrontement, la violence, la guerre repartent. Le bureau politique du FLNKS a été sage et dans les 3 jours, il prenait collectivement et presque unanimement, je crois, l'engagement de respecter la parole et la signature de Tshibau, ce qui a sauvé l'ensemble de l'affaire. Et le RPCR a eu la sagesse de ne pas en rajouter. Mais moi, j'ai immédiatement décidé que j'irais assister aux obsèques. 72 heures d'avion pour être 8 heures à Nouméa.
Tibaou, Yewene, Yewene. Tibaou, Yewene, Yewene. Tibaou, Yewene, Yewene. Tibaou, Yewene, Yewene.
Le 4 mai 1989, Jean-Marie Tshibau est à Ouvéa pour la levée de deuil des morts de la grotte. Tandis qu'il salue les familles des victimes, l'ancien pasteur Djoubeli Wea, militant radical opposé à la signature des accords de Matignon, s'approche de lui et tire. Aimé Césaire écrit « Il est mort, foudroyé par un des siens. » Cette mort, il l'avait pressentie et en avait d'avance accepté le risque, lui qui souvent parlait du grand trou noir. Tel un héros de tragédie, Tshibau a versé son propre sang pour mettre fin au cycle des violences. Depuis, son corps repose chez lui, à Tiendanit, dans une tombe perpétuellement fleurie. En 25 ans, la Nouvelle-Calédonie a changé de visage, s'émancipant de la France, sans pour autant prendre cette indépendance qu'il appelait de ses vœux. Aujourd'hui, que reste-t-il des paroles, des pensées et des actes de Jean-Marie Tshibau ?
Que reste-t-il de Jean-Marie Tshibau ? La paix. Tout simplement. Et formidablement. Je ne serais pas là sans lui. Plus alors des quantités de choses, et notamment le centre culturel Tshibau. C'était une exigence profonde de Tshibau pour marquer que la dignité d'un peuple se reconnaît plus à sa culture. à la culture dont il est porteur qu'à ses réalisations économiques. J'ai été le légataire de Tshibaou ensuite. J'ai eu du mal à défendre la dotation budgétaire en France pour faire ce centre. Il a fallu que je la défende 50 suites, y compris après que je sois Premier ministre, mais même déjà pendant que j'étais Premier ministre. À chaque année, des ministres des Finances voulaient violer l'aigle par économie budgétaire. Ça aurait été du propre. Mais il est là. Une belle victoire.
La crainte que j'ai, c'est qu'il soit aujourd'hui plus une icône qu'un inspirateur. C'est-à-dire, effectivement, son nom est régulièrement mentionné. Il n'y a pas un fonctionnaire d'État ou un ministre qui n'arrive sans aller à Thiédani déposer une gerbe. Il n'y a pas un homme politique qui ne fasse un discours de politique un peu général, surtout côté indépendantiste, sans évoquer la poignée de main avec Jacques Lafleur ou certaines phrases, certaines citations emblématiques de Jean-Marie Tshibaou. Mais il me semble que l'inspiration fondamentale, cette volonté de compréhension globale d'une situation, cette volonté d'enraciner la revendication dans un véritable terroir culturel, cette volonté de se battre à la fois contre les injustices, pour l'émancipation, mais en même temps dans le respect des autres cultures, toute une série d'éléments comme ça aujourd'hui, se sont un peu effacés et qu'on a une situation politique qui a un peu oublié quel était le vrai message de Jean-Marie Tshibaou.
J'ai cru entendre que votre fils s'appelait Jean-Marie. Est-ce que c'est une coïncidence ?
Non, c'est absolument pas une coïncidence. Voilà. Oui. Il s'appelle Jean-Marie à cause de Jean-Marie Tshibaou.
Le monde des vivants, il est actuellement celui des gens qui sont en train de causer là autour de la table, mais aussi ceux qui ne sont plus du domaine du visible, mais qui sont toujours là parmi nous et auxquels on fait sans cesse référence parce qu'eux aussi interviennent sans arrêt dans notre vie. Pour moi, ce soir, c'est le même monde, c'est la même existence. Et je pense que eux sont là et moi je suis présent à eux ce soir.
Jean-Marie Tshibaou, avec Gérald Cortot, Paulette Godin, Patrice Godin, Michel Rocard et Emmanuel Tshibaou. Archivina, Isabelle Fort-Rendu. Équipe de réalisation, Lionel Quentin, Claude Niort, Mathieu Touraine. Un documentaire d'Adeline Béving.